Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est une menace qui plane sur les relations économiques mondiales et dont les assemblées générales de printemps, du FMI et de la Banque mondiale qui se réunissent à partir d'aujourd'hui à Washington vont probablement s'inquiéter. Cette menace dont on entend parler depuis plusieurs semaines, c'est celle d'une guerre commerciale avec les taxes américaines sur l'acier et l'aluminium importés, avec les menaces de droits de douane entre les mêmes États-Unis et la Chine. Le ciel du commerce mondial s'assombrit. Ces menaces sont peut-être aussi les conséquences d'une mondialisation débridée. Une dose de protectionnisme pourrait-elle corriger les excès de la mondialisation? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Agnès Benassi-Kéré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et Christophe Rameau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également économiste, maître de conférence à l'Université Paris 1, membre du collectif Les Économistes Atterrés. D'abord, votre analyse, est-on à la veille d'une guerre commerciale? Agnès Benassi-Kéré.
Je dirais plutôt qu'on est dans une crise du système multilatéral. Contrairement à une idée populaire, la mondialisation, en tout cas pour ce qui concerne le commerce, ça n'est pas la jungle. Il y a une organisation mondiale du commerce avec un organisme de règlement des différends qui essaye de faire en sorte que les pays ne fassent pas n'importe quoi et en particulier qu'on reste dans un système multilatéral où on offre les mêmes conditions à tous les pays. Et on voit bien ce que veut l'administration américaine, c'est revenir à un système plus bilatéral où évidemment, les États-Unis, c'est le gros pays. Et donc, dans une négociation avec des petits pays, aura le dessus, aura des bons deals, comme pour employer le vocabulaire du
Trump,
président. Voilà. Et donc, vraiment, il y a un risque d'un éclatement du système, parce que, donc, il menace effectivement de droits de douane, mais également, il bloque les nominations à l'organisme de règlement des différends. Et donc, les petits pays ne peuvent pas se défendre. C'est ça qui est en jeu. Et donc, ce système multilatéral qui a porté la croissance, le rattrapage d'un grand nombre de pays émergents, c'est ça qui est en jeu aujourd'hui.
Alors, on va en reparler. Je vais vous demander à vous, Christophe Rameau, votre analyse également. Est-ce qu'on est à la veille d'une guerre commerciale ou est-ce que on est dans un rapport de force, un concours de muscles entre les États-Unis et la Chine?
Je pense que pour l'instant, on est plus dans le second scénario que vous évoquez. Pour revenir un peu à la racine des choses, je pense que le gros souci qu'on a, c'est le libre échange, c'est-à-dire la menace qui pèse sur le monde, c'est le libre-échange qui nous a conduit depuis une trentaine d'années en lien avec la finance libéralisée, parce que les deux, on y reviendra peut-être, sont très étroitement liés. Mm-hmm. Il faut savoir que la moitié à peu près du commerce mondial, c'est du commerce intra-firme. C'est-à-dire, c'est des firmes qui commercent entre elles et donc qui y compris jouent sur cela pour faire des prix de transfert, donc échapper à l'impôt.
Au sein des entreprises multinationales.
À l'intérieur même d'une firme. Mm-hmm. Voilà, on importe des composants pour la même firme, fabriqués par un autre établissement de la firme. Et donc, depuis 30 ans, depuis même plus de 30 ans, il y a deux grands piliers du régime néolibéral, c'est la finance libéralisée et le libre-échange, qui jouent ensemble. Et tout ça a conduit au creusement des inégalités, a conduit au creusement des dettes, parce qu'il faut parler dettes privées d'abord, soutenir malgré tout la croissance. Et donc, c'est l'une des raisons pour laquelle on a ce système qui ne fonctionne pas, qui crée des inégalités, qui est à la fois injuste et inefficace. Et donc, je pense qu'il faut revenir. L'enjeu, c'est de revenir sur le libre-échange et non pas d'avoir peur en soi des guerres commerciales. Alors même si je rejoindrai Agnès Benassi-Kéré sur le fait que, bien entendu, il faut que tout ceci se fasse de façon ordonnée, mais revenir sur un principe simple qui est que, en tout domaine, je pense que la concurrence, ça a du bon, bien entendu, y compris sur les relations économiques internationales. Les échanges ont du bon, mais il faut des règles. Il y a une phrase de Jaurès que j'aime beaucoup. Il disait « Le libre-échange, c'est la forme internationale de l'anarchie économique. »
Alors, Agnès Benassi-Kéré, votre réponse à cette analyse, est-ce que, quelque part, dans le libre-échange et dans la mondialisation, on n'est pas allé un tout petit peu trop loin pour cause d'absence de règles? Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un retour de balancier?
Bon, alors moi je pense qu'il faut au contraire distinguer les échanges de biens et services et les échanges financiers. D'ailleurs, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a été libéralisé, c'est le commerce. La finance n'était pas du tout libéralisée. Il y a énormément de travaux sur l'impact de la libéralisation commerciale sur la richesse et la convergence entre les pays qui ont montré que la libéralisation commerciale avait eu des effets positifs en moyenne sur les habitants aussi bien des pays riches que des pays pauvres, et surtout des pays pauvres d'ailleurs.
Vous voulez dire d'ailleurs que justement
ils se sont enrichis d'ailleurs. Les pays qui sont restés à l'écart de la mondialisation sont restés aussi à l'écart de l'enrichissement. Et citez-moi un pays fermé riche.
Il y en a pas, donc, pas tellement, mais peut-être Christophe Rameau.
Christophe Rameau a parfaitement raison de dire que ça crée des inégalités. C'est connu. La théorie le montre. D'ailleurs, il y a besoin d'aller chercher des théories compliquées. La théorie le montre que la mondialisation va favoriser certaines professions par rapport à d'autres, et c'est différent selon les pays. D'accord. Et donc, la mondialisation ne peut fonctionner que s'il y a un système de redistribution efficace. Et je pense que l'échec auquel qu'on voit aujourd'hui, qu'on voit aux États-Unis, qu'on voit au Royaume-Uni en particulier, ce sont des pays qui n'ont pas fait cette redistribution. Au contraire, l'État social s'est restreint, hein, mais c'était une volonté politique. Vous regardez les sondages au Royaume-Uni, de moins en moins, les gens étaient d'accord pour faire de la redistribution. Et donc les politiques ont suivi ce que disaient les électeurs. Mais le résultat, c'est un rejet de la mondialisation, alors que vous avez des pays comme le Danemark, qui sont des pays extrêmement ouverts, qui ont fait leur richesse de la mondialisation, mais qui l'ont supporté, si vous voulez, par un système de redistribution, d'éducation très efficace, et qui permet justement d'éviter ce creusement des inégalités.
Christophe Rameau, la mondialisation crée de la richesse ?
Comment dire ? Les échanges internationaux, la mondialisation, c'est l'idée qu'on transfère les principales décisions économiques et sociales à l'échelle du monde. Ça, j'y suis opposé. Je suis anti-mondialiste. C'est-à-dire, je pense qu'il y a besoin d'échanges internationaux. Je suis pour les relations économiques internationales, mais c'est y compris un débat qui traverse les économistes non libéraux, hein. Est-ce qu'on doit être alter-mondialiste ou anti-mondialiste ? Et mon point de vue, c'est que la démocratie, elle fonctionne dans le cadre des États-nations. Elle fonctionne dans le cadre des États-nations. Il n'y a pas de démocratie mondiale. Et donc, il y a besoin de donner à ces États des marges de manœuvre. Si vous mettez en concurrence des firmes qui doivent respecter des règles sociales ou environnementales, et d'autres qui ne sont pas soumises à ces règles, eh bien, bien entendu, la concurrence est totalement faussée. Donc, pour que la concurrence ne soit pas faussée, il ne faut pas qu'elle soit libre. C'est ça l'enjeu. Et, comment dire, durant les Trente Glorieuses, nos économies étaient beaucoup plus fermées qu'aujourd'hui. Elles s'en portaient pas plus mal, loin s'en faut. Et ce qu'on remarque, c'est que les pays qui ont plutôt bien fonctionné, qui ont tiré bénéfice des échanges commerciaux ces dernières décennies, ce sont les pays qui ont couplé ça avec une très forte intervention publique. Dans les pays africains, on a appliqué le programme du FMI, le fameux consensus de Washington, c'est-à-dire on a libéralisé les échanges, la finance, etc. On a coupé dans les dépenses publiques, parce que tout ça, c'est un paquet global que nous vendaient les libéraux pendant des décennies. C'est une catastrophe. En Chine, le gouvernement n'est pas bête, bien entendu. Il a couplé.
Même très organisé.
Il est très, très organisé. Il n'y a pas besoin de faire un grand dessin. Donc, mais c'est valable, en fait, pour tous les pays. L'idée que si on remet des règles, on revient. Mais en fait, il y a toujours des règles. Aux États-Unis, il y a toute une série de secteurs qui sont protégés. Les droits de douane, ça existe même dans l'Union européenne. Il s'agit de mettre
Christophe
un peu,
Rameau,
d'aller un peu plus loin dans ce sens-là.
Je vous repose la question que posait Agnès Benassi-Kéré. Existe-t-il des pays fermés, riches ?
Ben, je vous dis, durant les Trente Glorieuses, on était plus fermés. Et on était plus riche. On s'en portait
on
pas plus mal.
Riche.
Donc je vous dis pas,
on
était plus riche. En termes de croissance, on avait des taux de croissance plus importants.
Mais parce qu'on partait plus
loin.
On
avait des taux bien.
Mais
bien sûr, on était moins riche qu'aujourd'hui.
Deuxième guerre mondiale. Non, mais ça reste
d'assez proche. Comment dire, on avait des perspectives de progrès. On avait des perspectives de progrès. On avait du progrès économique. Ce qui est important, c'est le progrès, bien entendu. Qu'on était moins riche. On avait des progrès qui étaient beaucoup plus importants. Comment dire ? Alors autre chose, autre élément peut-être sur les États-Unis.
On va peut-être laisser répondre Agnès Benassi.
Mais je suis tout à fait d'accord qu'ils disent que ce qui est important, c'est le progrès. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'on est en train de faire le combat d'hier. La mondialisation, c'est terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le commerce ne croît pas plus vite que le PIB. Donc, on est arrivé à un certain plateau, si vous voulez. Et ce qui est le grand sujet aujourd'hui, c'est le progrès technique. C'est la transformation gigantesque des professions.
Une nouvelle révolution industrielle.
Et c'est ça qui crée des inégalités beaucoup plus aujourd'hui. En dynamique que la mondialisation. Alors, le consensus de Washington, ça fait 20 ans que c'est fini. On a l'impression que là, qu'on est un retour en arrière. Et peut-être qu'effectivement, aux États-Unis, on vit espèce d'effet décalé de la désindustrialisation qu'a connue les États-Unis sur les années passées.
Alors, la rhétorique de Donald Trump, c'est qu'il veut mettre l'Amérique d'abord et mettre des droits de douane pour protéger les emplois américains. Christophe Rameau, la mondialisation détruit-elle des emplois alors on va dire globalement dans les pays occidentaux. Et est-ce que le protectionnisme en sauve ?
Ben, tout d'abord, les États-Unis sont confrontés à un problème. Ils ont un déficit commercial absolument record. Donc ils sont fondés, d'un certain point de vue, à dire que à l'échelle mondiale, il y a des pays qui ne dépensent pas assez. Keynes préconisait de pointer du doigt et de taxer, en un sens, non pas les pays déficitaires, mais les pays excédentaires. Et aujourd'hui, on a deux grands pays qui nous posent problème à l'échelle mondiale. La Chine, qui nous posait beaucoup de problèmes et qui en pose moins. Parce que le gouvernement chinois a compris, pour les raisons politiques internes, qu'il pouvait pas tirer sa croissance éternellement par les exportations. Et donc, il a relancé l'État social, la dépense publique, la protection sociale, les retraites, la santé, de façon à relancer la consommation interne. Et donc les excédents commerciaux chinois, qui étaient à 10% du PIB chinois au milieu des années 2000, sont aujourd'hui qu'à 2%. Le gros problème qu'on a aujourd'hui en Europe, et ça nous concerne directement, c'est l'Allemagne, qui a des excédents commerciaux équivalents à près de 9% de son PIB. Et la zone euro, prise comme un tout, aujourd'hui a des excédents commerciaux exorbitants, 3% de son PIB. Ça veut dire qu'on ne dépense pas assez. Et on ne peut pas avoir comme perspective de politique économique, a fortiori quand on est un pays développé, le fait de piquer des emplois aux autres. Donc, le America First, ça ne me choque pas, monsieur, absolument pas. Tout comme Arnaud Montebourg disait, il y a nécessité de se soucier de la production nationale et de mettre en place des politiques industrielles pour soutenir la production nationale, ça ne me choque absolument pas. Voilà, je suis pour qu'il y ait des règles, nous vivons dans des économies mixtes. Il y a besoin de concurrence, mais il y a aussi besoin d'intervention publique.
Agnès Benassi-Kéré, America First.
America First, ça ne choque pas. La question, c'est comment on fait. Et là, en pratique, ça veut dire protéger quelques emplois dans l'acier, ce qui fera monter le prix de l'acier aux États-Unis, et ce qui va détruire des emplois massivement dans l'automobile. Donc le calcul n'y est pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Union européenne est très mal à l'aise à répondre, parce que les Européens, au contraire, sont persuadés effectivement que mettre des droits de douane, ça va détruire plus d'emplois que ça va en protéger. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'ils ont réagi initialement en parlant de produits de consommation finale, un peu symbolique, de manière à pas toucher aussi le pouvoir d'achat. Parce que l'autre point, c'est quand vous mettez des droits de douane, vous affectez le pouvoir d'achat des salariés.
Oui, parce que ce qu'il faut expliquer aux auditeurs, là, c'est que les Américains menacent de faire des droits de douane sur des produits chinois, les Chinois le menacent de le faire en rétorsion, mais pour l'instant, rien n'est fait.
Pour l'instant, n'a rien n'est fait, donc mais c'est maintenant, on arrive un peu à la fin de la
période de négociation pour l'acier et l'aluminium.
Mais ce qui est important aussi de voir, c'est que si les gens donc payent plus cher leurs automobiles parce que l'acier qui est dans les automobiles est plus cher, et ben ils consommeront moins d'autres choses. Donc, on a, au bout du compte, on ne protège pas l'emploi américain de cette manière-là. Le déficit américain, si on veut le réduire, c'est quand même assez facile. Au lieu d'augmenter le déficit budgétaire, il faut le réduire. Et quand on est en économie au plein emploi, c'est pas choquant de réduire le déficit budgétaire.
Christophe Rameau, je vous vois sourire.
Mais oui, parce que on a bien là le déroulé de d'arguments libéraux, en fait.
Chacun a le droit d'avoir ses arguments. Mais bon,
les arguments libéraux sont tout à fait respectables.
Allez-y pour les vôtres.
Voilà. Donc, je pense que le problème qu'on a, par exemple, le problème qu'on a en Europe. Donc, on a des politiques européennes qui font de l'austérité globalement, même si elles en font un peu moins. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça repart un tout petit peu. Et donc, on a une Europe qui dépense pas assez. D'accord? On a une Europe qui dépense pas assez. C'est-à-dire qu'on se fait de la guerre de tous contre tous. C'est la logique du choc de compétitivité.
Ah, mais couplé, je suis d'accord qu'il n'y a pas assez de demande en Allemagne.
Couplé à ça, avec de l'austérité budgétaire. D'accord? Et s'il n'y a pas suffisamment de demande en Allemagne. Non, c'est pas complètement fini, excusez-moi. Non. Donc, tout dépend d'où.
En France, mais dans les autres pays, oui.
On a de l'austérité budgétaire généralisée. C'est ça, la politique européenne. L'idée qu'il faut pas avoir. L'idée européenne que vous défendez, si je ne m'abuse, c'est l'idée que le déficit doit être nul. Vous voyez ce que je veux dire? Il doit être à 0,5% maximum. C'est ça la moyenne. Le déficit structurel, comme on dit, normal doit être nul.
La règle européenne, c'est 3%.
Non, 3% pour le déficit courant. Le déficit normal, nous disent les économistes libéraux, il doit être proche de l'équilibre. C'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant parce que de toute façon, ça nie le fait qu'il y a besoin de déficit et de dette pour soutenir l'investissement public. Bon, et donc, on ne dépense pas assez. Et en France, on a un problème particulier. Qui est qu'on a un grand patronat, contrairement à l'Allemagne, pour le coup. On a un grand patronat qui est très mondialiste, donc qui s'adonne follement, si je puis dire, au libre-échange, avec des politiques de délocalisation massive. Et donc, on a un problème particulier en France, qui est le déficit commercial, qui est articulé au problème de l'euro, qui est qu'on a un euro qui est sous-évalué aujourd'hui pour l'Allemagne, hein, et on a un euro qui est surévalué pour les pays d'Europe du Sud, dont la France, et donc on a ce problème d'architecture de l'euro, et donc tout ça se combine, si vous voulez, tout ça se combine pour avoir un régime plutôt dépressif, même si là on a une reprise plutôt bienvenue, mais on a un régime plutôt dépressif aujourd'hui dans l'Union européenne.
Agnès Benassi-Kerry, j'aimerais revenir sur l'idée que vous souleviez en début d'émission du cadre multilatéral et le multilatéralisme commercial global est en train de céder le pas aux accords directs type CETA. Justin Trudeau est en France aujourd'hui. Le TAFTA qui est suspendu, c'est l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis. Est-ce que ces accords contiennent leur propre garde-fou ?
Alors, c'est des accords qu'on appelle le deuxième génération, oui. Hein, donc qui vont au-delà du commerce et qui apportent des garanties en matière d'ouverture des marchés publics, notamment c'est très important pour les Européens qui ont des entreprises qui vont pouvoir candidater sur des appels d'offres au Canada et qui contiennent des garanties, un certain nombre de garanties sur le règlement des différends et qui contiennent des garanties aussi sur le respect des origines contrôlées. Bon, c'est pas parfait. Il y a un élément qui a été pointé qui est l'aspect environnemental qui est absent. Et là, on a un problème énorme par rapport à l'environnement, qui est non pas que le libre-échange détruit la planète, qui est que le commerce international ne paye pas le prix de ses émissions de carbone. Il y a des... Alors que vous prenez le taxi, hein, pour, vous prenez le taxi pour vous déplacer en ville, vous payez vos émissions de carbone, mais vous achetez un t-shirt fabriqué en Chine, ce t-shirt ne paye pas ses émissions de carbone.
Une des plus grosses émissions de carbone, c'est le transport maritime.
C'est une distorsion. Mais la solution à ça, c'est pas d'arrêter le commerce. La solution à ça, c'est de mettre en œuvre une taxation des émissions de carbone pour le commerce international, le fret et évidemment le transport aérien, qui lui également ne paye pas ses émissions de carbone.
Est-ce que c'est un des problèmes majeurs du commerce mondial aujourd'hui?
Tout à fait. En tendance, on estime que le transport maritime de marchandises va représenter de l'ordre de 20% des émissions de gaz à effet de serre dans les prochaines décennies. Mmh. Donc c'est un très gros poste émetteur, comme vous avez raison de le souligner. Et donc il faut bien démondialiser de ce point de vue-là.
Mais non, c'est pas la solution de démondialiser.
Je comprends pas.
C'est de facturer les émissions de carbone.
Si, ou alors de changer de technologie. Excusez-moi, de mon point de vue, il s'agit de facturer. Parce que si vous facturez qu'il y a toujours autant d'émissions de GES, je vois pas quel est l'intérêt. Il faut facturer pour réduire. Vous avez raison, je vous rejoins. Il faut taxer pour réduire. Oui. Il faut démondialiser. Je suis d'accord avec vous. Tous les pays ne peuvent pas produire tous les biens, etc. Donc il y a besoin de spécialisation internationale, bien sûr. Mais sur une série de domaines, il y a besoin d'aller dans le sens de la démondialisation. On a été beaucoup trop loin, hein, et donc à la fois pour des raisons sociales, hein, pour que les États retrouvent une marge de manœuvre en matière sociale et qu'on cesse de mettre en concurrence systématiquement les systèmes sociaux, parce que c'est ça, hein, qui est en jeu, pour des raisons environnementales, et je vous rejoins, il y a besoin d'aller dans le sens de la démondialisation. Et je vous rassure, ça ne signifie pas l'autarcie.
Alors, Agnès Benassi-Kerry, l'OMC dont vous parliez en début d'émission, est-ce qu'elle est, son rôle aujourd'hui ne se limite n'est-il pas à régler les contentieux? Est-ce qu'elle est morte comme cadre de négociation globale?
Alors le cadre de négociation pour l'instant est un peu en suspens, hein, depuis des années, ça c'est pas nouveau. Mais ce qui est très actif, c'est l'organisme de règlement des différends, c'est-à-dire qu'un pays qui s'estime lésé par un autre pays qui ne respecte pas les règles du commerce international peut faire un appel à cet organisme pour régler le différend et en attendant mettre en place des protections en attendant que le cas soit jugé. Maintenant, si cet organisme est bloqué parce que les États-Unis, pour pas les nommer, donc bloquent les nominations des juges, il va bien falloir faire quelque chose. Alors, un scénario possible, c'est de reconstruire du multilatéralisme sans les États-Unis. Après tout, c'est ce qui s'est en train de se faire avec l'accord, c'est ce qui s'est fait avec l'accord transpacifique.
Alors, même si les États-Unis reviennent sur leur opposition à l'accord transpacifique, ils pourraient le réintégrer, Christophe Ramon, vous avez entendu parler de ça?
Je sais pas. Je pense qu'effectivement, bon, faut voir ça, on verra ça dans les prochaines semaines. Mais comment dire, il faut pas non plus négliger le fait que dans les institutions nationales, notamment dans l'organisme de règlement des différends à l'OMC, il y a un logiciel libéral qui a pénétré ces institutions. Hein, c'est un logiciel contre la dépense publique, contre les normes publiques.
Non, mais l'OMC n'a rien à voir avec les dépenses publiques.
Non. Je parle de l'OMC, le FMI, etc. Il y a un logiciel libéral.
Hein, pas du tout, le FMI. Alors, si, je recommande.
Je vais devoir vous arrêter.
Même eux ont mangé un peu leur chapeau. Vous avez raison sur ce point.
L'émission touche à sa fin.
On part de tellement loin.
Merci.
sur un logiciel totalement libéral qui risque.
Merci, merci Christophe Rameau, merci Agnès Benassi-Kerry. C'est déjà terminé. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce, Gérard Perrault et Valentin Vanner. Prochain débat mercredi, même heure, même endroit. Demain, c'est mardi politique. D'ici là, bonjour chez vous.